de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Antonio Fischetti.
Bonjour chères auditrices et auditeurs, ravi de vous retrouver avec Thibaut Baduel à la réalisation pour une immersion dans un monde animal effrayant pour certains, mais fascinant pour d'autres, celui des araignées. Elles ont souvent mauvaise réputation, une réputation parfois entretenue par le cinéma à grand budget, mais heureusement, elles ont aussi leurs défenseurs et des amoureux passionnés. Car les talents des araignées sont innombrables, elles peuvent être voltigeuses, musiciennes, architectes. Comment lutter contre les idées fausses dont sont victimes les araignées? Que savons-nous vraiment d'elles? Quel est leur rôle dans la biodiversité? Que peuvent-elles nous apprendre sur notre rapport à la nature? Pour en parler, nous recevons la spécialiste française de ces animaux, notre madame araignée à nous. Elle consacre sa vie à les étudier sur le terrain comme en laboratoire, mais aussi à redorer l'image de ces mal-aimés en allant à la rencontre de tous ceux qui souhaitent se débarrasser de leurs peurs irrationnelles. Pourquoi tant d'idées fausses sur les araignées? En route pour un fascinant voyage avec la biologiste Christine Rollard. Bienvenue. Christine Rollard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, spécialiste des araignées au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur ces animaux, notamment à la découverte des araignées, c'était l'avant-dernier. Et le dernier en date, 50 idées fausses sur les araignées aux éditions Coué. Alors vous êtes arachnologue. C'est quoi le travail d'une arachnologue? Vous passez votre temps à quatre pattes dans les prés, dans les greniers, à chercher des araignées disons inconnu jusqu'à ce jour.
Alors ça peut être effectivement une partie du travail, mais on n'est pas tout le temps sur le terrain quand même. Donc en tant qu'enseignante chercheuse, donc j'ai aussi des enseignements avec des étudiants au Muséum National d'Histoire Naturelle. J'ai fait effectivement quelques missions à l'étranger. Et là, dans ces cas-là, on va collecter les araignées. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Et puis on les étudie bien sûr au laboratoire avec différents moyens. Et puis au Muséum, il y a aussi une des trois plus grandes collections mondiales d'araignées dont il faut s'occuper, donc la gérer, la faire découvrir aussi à des chercheurs du monde entier. Et puis il y a de l'expertise et puis il y a de la diffusion des connaissances. Donc mon métier est un petit peu varié. Il y a plusieurs facettes.
Mais pour nos auditeurs africains, donc notamment, vous êtes allé dans les monts Namba, en Guinée. Alors comment ça se passe quand vous allez dans une région comme ça? Vous savez ce que vous allez chercher ou est-ce que vous débarquez, vous dites tiens, je vais chercher des araignées inconnues?
Eh ben, en fait, on ne savait pas trop puisque c'était une mission donc il y a quelques années déjà, qui était dans la réserve de la biosphère donc des monts Namba et quelques collectes très ancienne, avait effectivement mis en avant qu'il y avait des araignées, mais elles n'avaient pas été étudiées. Et donc, pour pouvoir les étudier mieux et voir un peu où elles vivaient, j'ai demandé effectivement à avoir une mission d'un mois là-bas pour essayer d'aller les trouver, les chercher, les dénicher, mais on n'avait pas d'idée sur ce qu'on allait trouver. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses encore à décrire, d'ailleurs, à l'heure actuelle.
Et vous avez trouvé quoi, alors, dans les monts Namba?
Énormément d'araignées qui sont encore à décrire. Donc, du coup, ça ne se fait pas en 5 minutes.
Donc vous avez vous-même découvert des araignées que personne n'avait jamais vues avant.
Voilà, exactement. Et donc, il faut les nommer.
Combien d'araignées avez-vous découvertes?
C'est une question difficile, puisque j'ai fait quand même des prélèvements, plus tous ceux qui étaient anciens. Il y a quelques milliers d'araignées qui ont été prélevées. Et puis, là, pour l'instant, il y a quoi? Une vingtaine ou une trentaine d'espèces qui ont été décrites et qui sont nouvelles pour la science.
Que vous avez découvert?
Que j'ai découverte et que j'ai décrite avec des collègues. Donc, c'est pas on peut se mettre à plusieurs et on peut se mettre en collectivité pour faire ça.
Et vous êtes allé aussi notamment en Guadeloupe, où là aussi vous avez découvert des araignées gladiatrices. C'est ça de quoi il s'agit?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, la Guadeloupe, en fait, là, il n'y avait vraiment aucune notion des araignées. Il y avait même sur des pliants publicitaires, pas de mygales en Guadeloupe. Et on en a découvert effectivement une avec le collègue avec qui je suis allée dans les années 2000. Et il y a une petite mygale qu'on a découverte au-dessus de 700 mètres d'altitude dans les sphaignes du volcan, donc la Soufrière. Et donc, elle a été nommée et décrite par mon collègue. Et elle s'appelle Holothélès sulfurensis. Mais c'est une mygale qui fait 1,8 cm de taille de corps. Ce n'est pas une énorme mygale comme on a l'habitude de les montrer au public.
Mais ces araignées gladiatrices, alors parce qu'elles envoient
et
de la
pour
soie.
Les, oui, pour quoi, les araignées, donc je vous ai parlé de la mygale, mais ça c'était une des espèces décrites. Et puis on a effectivement aussi découvert en battant des arbres, en battant des branches, parce qu'on
battant,
a des petits, on secoue en fait les branches et on fait tomber en fait ce qu'il y a dans une sorte de nappe de tissu, ce qu'on appelle un parapluie japonais. Et là, tout d'un coup, on a vu une araignée très très grande, avec des longues pattes, avec des énormes yeux. On les appelle les araignées à face d'ogre et qu'on appelle gladiateurs puisqu'elles lancent un filet qu'elles confectionnent et qu'elles tiennent avec leurs pattes avant, étant suspendues par les pattes arrière, et elles lancent ce filet sur les proies qui passent à leur portée en sentant les vibrations, et elles font ça de nuit. Et donc de nuit, on a découvert à la lampe frontale un flash bleuté de la soie en fait, que portait cette araignée avec ses pattes, et qu'elle lançait en fait, sur oui, ses...
À la manière des gladiateurs.
À la manière des rétières et des gladiateurs qui avaient aussi un trident et un filet.
Donc actuellement... il existe 48 700 à peu près.
On a augmenté.
Tous les jours, ça change. Donc, espèces d'araignées connues.
Oui, alors on est à 50 400 espèces à ce jour d'araignées qui sont nommées par les chercheurs. Donc, ils sont connues.
Vous écrivez dans votre livre que chaque année, on découvre alors, quasiment 1000 espèces.
Oui, tout à fait.
C'est variable, mais entre 500 et 1000 espèces chaque année, c'est énorme quand même.
Oui, c'est énorme. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent un peu
dessus. Inconnues.
Et que des araignées. Alors, ce n'est pas que des araignées inconnues, il y en a beaucoup dedans, mais il y a aussi des révisions d'espèces qui avaient déjà un nom et qui, avec les moyens qu'on a maintenant d'études, avec un peu plus de, avec l'ADN, avec des moyens microscopiques plus performants, ben on se rend compte qu'on avait fait, on avait mis des noms et ce n'était pas les bons. Donc, du coup, on les redécrit différemment.
Alors qu'on découvre autant d'araignées, c'est plutôt bon signe pour la science. Qu'est-ce
c'est
que ça
très
veut
bien,
dire,
ça veut dire ben oui, ça veut dire qu'effectivement, on a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à découvrir. Et on est à peu près, on se dit qu'on est à... Bon, peut-être qu'il y a encore 10 fois plus d'araignées à décrire sur la planète. Et c'est quand même hyper important de connaître notre diversité, de ce qui nous entoure, avant de faire quelquefois des dégâts.
Alors, parmi vos activités, donc, il y a donc, la recherche, la diffusion des connaissances, mais aussi une activité à laquelle vous tenez beaucoup, c'est la revalorisation de l'image des araignées. Donc, quand nous pensons araignées, nous pensons souvent peur, phobie. Mmh. Et vous, vous travaillez à désensibiliser les gens. Et d'ailleurs, nous connaissons depuis un certain temps. Puis j'étais allé vous voir personnellement
il y a quelques années
pour mon premier voyage, tout premier voyage en Amazonie. Et c'est vrai que j'aimais pas trop ces animaux.
Pas vraiment.
Et j'avais envie de m'habituer à leur présence. Et on se connaissait pas. J'étais allé vous voir pour vous dire voilà, j'ai envie de voir des araignées, pas trop près quand même, mais un petit peu. Mm-hmm. Et vous m'avez extrêmement bien accueilli. Et ça m'a un peu habitué à.
Exactement.
Et vous faites ça maintenant tous les jours quasiment.
Alors, peut-être pas tous les jours, mais... parce que j'ai quand même aussi mon boulot d'enseignante chercheuse. Mais dans la partie diffusion des connaissances, je considère que j'ai la chance de connaître beaucoup de choses sur les araignées, donc je dois le transmettre et on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc mon rôle, en fait, dans ce sens-là, c'est d'apprendre à les connaître avec des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées jusqu'à des phobies handicapantes. Mais je reçois maintenant une trentaine de personnes chaque année, donc en les prenant individuellement l'après-midi.
Je confirme que ça marche, puisqu'effectivement, quand on les connaît un petit peu, elles sont moins effrayantes. J'ai pu ensuite aller en Amazonie plusieurs fois et être moins effrayée qu'au début.
J'aime bien avoir ce retour, voilà, tout
voilà.
À fait.
Alors, et justement, alors, nous avons alors une réflexion d'un de nos auditeurs en Afrique, donc Ibrahim Ouad de Dakar, qui se demande alors pourquoi ici en Afrique, on n'a aucune crainte des araignées, alors qu'en Europe, c'est le contraire.
Ben oui, c'est vrai que c'est une peur assez, on va dire, occidentale. Je pense qu'effectivement, dans un certain nombre de pays, comme en Afrique, en Asie, le lien entre les hommes et la nature s'est beaucoup moins cassé. Et du coup, on est resté avec une approche beaucoup plus positive. Et il y a des contes et des légendes qui sont beaucoup plus positives dans certains pays, justement comme en Afrique, en Australie, en Asie. Alors que dans nos pays occidentaux, c'est beaucoup plus négatif. Donc du coup, on a une approche qui s'est cassée de la nature et donc qui nous fait avoir justement ces craintes vis-à-vis d'un animal qu'on connaît mal, en fait, finalement.
Oui, mais vous me disiez justement que, hors antenne, que ça change un petit peu, que maintenant, on a aussi de plus en plus de gens en Afrique qui ont crainte des araignées.
Malheureusement, je pense que c'est un constat, c'est dans les nouvelles générations, assez influencées malgré tout dans un certain nombre de pays par les réseaux, par les médias et autres, qui les perçoivent quelquefois un petit peu mal, ou par des films, ou par tout un tas de mauvaises idées qui sont transmises, on se rend compte qu'effectivement, les nouvelles générations peuvent avoir une approche un peu différente des anciens.
Alors, écoutons le griot lanciné diabaté, originaire de Guinée, qui, lui, adore les araignées, et non seulement il les adore, mais il utilise, sans faire de mal aux araignées, les cocons d'araignées pour utiliser donc cette petite membrane très fine pour coller sur ses calebasses, des calebasses de son balafon, et obtenir un son exceptionnel, justement grâce à ces cocons d'araignées.
Et donc, des cotons purs pour des balafons comme celle-là. Et ces petits papiers resserrent, gardent un trésor unique. Ça, c'est les cocons des araignées.
Ah, oui.
Quand les femelles sont en bonne santé, les cocons sont plus blanches. Les balafons que je joue, je ne peux pas les jouer si je n'ai pas ça. Si je suis au village, c'est-à-dire dans le village, le temps que les autres enfants sont en train de s'amuser, moi je passe mon temps à chercher des cocons des araignées.
Christine Rollard, qu'est-ce que cette expérience de l'enseigné diabaté avec ces cocons d'araignées vous évoque ?
Alors je ne sais pas effectivement de quelle araignée il peut s'agir, mais parce qu'il y en a qui font beaucoup de cocons différents. Mais effectivement, quand les cocons entourent les œufs, ils sont souvent assez denses. Et donc ça fait vraiment une enveloppe assez dense et qui peut être étirée facilement. Et je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir un son derrière, parce que c'est quand même assez costaud. Hein. Et donc un son derrière qui peut être très très joli, comme j'ai entendu là. Oui,
et c'est tout un rapport avec la nature. Moi, je l'ai rencontré en dehors aussi, l'enseigné diabaté, et il explique qu'il y a une harmonie entre lui, les musiciens, les griots, et le monde naturel. C'est pas simplement une utilisation de l'araignée, c'est aussi révélateur de ce que vous disiez, c'est-à-dire ce rejet de l'araignée ou bien cette acceptation.
Cette acceptation d'être un élément de la nature nous-mêmes et de pouvoir ensuite observer et comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, là, il a vu ses femelles ou avec les cocons, et il peut effectivement récupérer dans certains cas la soie des cocons, je suppose, quand les jeunes déjà sont sortis de ces cocons.
Mais il y a aussi des gens qui ont des araignées chez eux.
Ça arrive. Il y a des terrariophiles.
Alors qu'est-ce que vous en pensez de ces gens ? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est plutôt négatif ?
Alors c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal d'observations dans les temps un peu plus anciens et même encore. Le fait d'avoir des élevages peut nous apporter des informations sur des durées de vie, sur des croissances, etc. Mais certains terrariophiles, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. C'est pour leur plaisir personnel et c'est quelquefois des espèces exotiques qui sont quelquefois prélevées dans la nature. C'est pas forcément des élevages. Donc il faut faire attention.
Ça peut contribuer
quelquefois à la disparition ou la baisse de la biodiversité, ce qui a été le cas pour une espèce qu'on a maintenant sous protection en annexe 3 de la CITES, donc qui réglemente le commerce, la Matoutou falaise de Martinique, qui a été très prélevée par les amateurs parce qu'elle a des couleurs très très jolies. Et cette Matoutou falaise est maintenant protégée nationalement et sur un annexe 3 de la CITES à cause des prélèvements par les amateurs et aussi la déforestation qu'il y a eu aussi en Martinique quand même. Son milieu de vie a aussi été détruit.
Il y a beaucoup d'araignées protégées ?
Alors, en France métropolitaine, non. Si ce n'est cette Matoutou falaise, en fait, martiniquaise, donc, qui est maintenant protégée au niveau national. Et ensuite, on a des espèces qui sont sur des listes de stratégies de création d'aires protégées, mais elles ne sont pas elles-mêmes protégées, mais c'est quelquefois les habitats qui sont protégés.
Parmi les idées fausses que vous attachez à combattre, il y a la dangerosité des araignées. Donc elles ont la réputation pour certains d'être dangereuses, mais vous, alors vous dites non, elles ne sont pas dangereuses les araignées, sauf exception.
Exactement, il faut déjà, pour se faire mordre par une araignée, il faut
donc
déjà...
Donc elles mordent, elles ne piquent pas. Hein. Quelle est la différence entre mordre et piquer ?
Ah, c'est très bien, parce qu'effectivement on parle souvent de piqûres. Bon, elles ont deux crochets qui ont des formes de pointe. Donc ça pique des crochets. Mais ça joue sur deux crochets qui vont s'ouvrir pour pouvoir avoir cette action de mort au niveau de la peau. Donc on parle bien de morsure chez les araignées. Alors ça, c'est pour la majorité des araignées. Et pour les mygales qui ont une position des crochets différente, ça fait un peu comme des serpents et ça va de haut en bas. Mais on parle aussi de morsure. Mais la dangerosité, elle est à diminuer. Aucune araignée n'est mortelle. Hein, donc ça veut dire qu'on est mordu par une araignée, elle injecte du venin, on ne meurt pas.
Pour avoir un ordre de grandeur, dans votre livre, vous écrivez il y a 90 000 cas, grosso modo, de décès par morsure de serpent dans le monde, mais pas plus d'une dizaine par morsure d'araignée.
Exactement. Donc, et même pas dû à l'action directe du venin, mais souvent à des infections, voire des surinfections qui se mettent en place à l'endroit de la morsure, qui quelquefois peut générer, selon des espèces, des petites nécroses. Et si c'est mal soigné ou si les personnes étaient déjà dans une fragilité au niveau immunitaire, ça peut provoquer justement ces morts.
Mais on parle souvent de la veuve noire, qui serait l'araignée la plus dangereuse, l'araignée mortelle, mais en vérité, même elle n'est pas spécialement mortelle.
Mais attention, Antonio, c'est qu'effectivement, la veuve noire, c'est les veuves noires, parce qu'il y a plein d'espèces dans différents pays. Et effectivement, déjà pour se faire mordre, c'est une araignée de petite taille, avec des petit crochet, il faut vraiment mettre la main dessus et dans son mode de vie par rapport au nôtre, on a rarement des contacts avec une veuve noire. Néanmoins, effectivement, si elle mord, et si encore une fois elle injecte du venin, parce que les cas de morsure pour les araignées, c'est des morsures de défense, et il n'y a pas forcément d'injection de venin comme pour les serpents d'ailleurs. Et donc, s'il y a injection de venin, il se trouve que le venin des veuves noires est assez puissant contre des mammifères. Qu'est-ce que nous sommes, un mammifère ? Donc
petits,
on peut avoir des réactions, effectivement. Mmh. C'est parmi celles qui sont potentiellement dangereuses, mais on ne va pas dire mortelles, encore une fois.
Oui, parce que ça fait pour tuer des petits mammifères, des
et
rats,
des
rongeurs, mais pas des gros comme nous. Et donc parmi les autres mythes que vous dénoncez dans votre livre, hein, dont je rappelle le titre, 50 idées fausses sur les araignées, il y en a un assez récurrent, c'est les araignées pondraient sous la peau humaine. Donc ça vous dit non, c'est faux, ça n'arrive jamais.
Ça n'arrive jamais, puisqu'elles n'ont pas d'organes de perforation pour aller déposer leurs œufs. Et les œufs sortent par une petite fente de l'abdomen des femelles, la partie arrière, au niveau ventral, il y a une fente. Elles vont sortir leurs œufs un peu tout mous et ensuite les entourer toujours avec des petites fils de soie, plus ou moins épais. Mais donc pas dans une peau humaine ou pas dans une peau de n'importe quel autre animal.
Mais sur Internet, on peut voir certains films, certains documentaires où des gens ont des boules, par exemple, sur le bras ou sur la jambe.
C'est très bien
fait.
Tout d'un coup,
on voit sortir des tas de petites bêtes, mais ce ne sont pas des araignées.
Ce ne sont pas des araignées, puis il y a des montages aussi. Par contre, il y a effectivement d'autres animaux qui peuvent faire ça, des punaises. Certaines punaises peuvent pondre sous la peau, certains acariens peuvent le faire aussi. Et on peut retrouver ça dans certains pays. On a quelquefois sous les orteils, par exemple, ce qu'on appelle des chiques, dans certains pays d'Amérique du Sud. Mais ce ne sont pas des araignées. C'est des petites bêtes avec plein de pattes, mais ce ne sont pas des araignées.
Donc finalement, la peur des araignées, enfin la peur que certains ont des araignées, pas tout le monde, elle n'est pas du tout rationnelle. Elle n'a rien à voir avec la dangerosité.
Non, pour certains, quand je reçois des phobiques ou des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées, ce n'est pas forcément la dangerosité qui est évoquée. Pour certains, oui, mais pour d'autres, c'est plutôt l'aspect ou le déplacement ou le fait qu'elles ont beaucoup d'yeux ou beaucoup de pattes. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes selon les
personnes. Et aussi cette fréquence de la peur, enfin disons, des araignées, puisque certains biologistes même disent que ça serait une explication logique, puisque les araignées étant dangereuses, même disons parmi les ancêtres de nos ancêtres, cultiver cette crainte, ça permet de se protéger, c'est l'explication évolutionniste. Mais ça, vous vous êtes complètement opposé à cette
C'est pas que je suis
théorie.
Complètement opposé, mais je dis non, c'est pas d'une peur ancestrale. On n'a jamais été en confrontation ou en opposition avec les araignées. Les plus grosses qu'on ait jusqu'à présent trouvées dans les traces fossiles ne fait même pas la taille de la plus grosse actuelle. Et donc, on n'a jamais été en compétition de nourriture ou quoi que ce soit avec ces animaux. Et la dangerosité, elle n'existait pas non
alors
plus.
Alors, pourquoi elles ont mauvaise réputation alors ?
Parce qu'en fait, elles sont mal connues. On est peu nombreux quand même à travailler sur les araignées. Donc, on est peu nombreux à transmettre un certain nombre d'idées réelles sur le monde des araignées, qui est un monde soyeux, sensoriel, sensitif et solitaire. Donc, ça, c'est les caractéristiques que je donne souvent. Et donc, du coup, cette méconnaissance fait qu'on peut entretenir dans les médias, dans les émissions de télé, dans tout un tas de choses et dans des films.
On prend plaisir à se faire peur aussi.
Et on aime avoir peur, quelquefois.
Mais en Afrique, il y a aussi des mythes totalement positifs sur les araignées. Et nous allons y venir après cette chanson, donc Acheba, qui chante Little Anansi.
Oh, look at that, now. Thinking big. Them 8 legs. Ah! Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Always hungry. I'm thinking of chicory. Always hungry. I'm thinking of some kind of trick. Now, always hungry. I'm thinking of chicory. Hungry and thinking of some kind of trick.
strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Out to the jungle. Everyone are laughing. They laugh so much until they belly hurting. Oh gosh! Out to the jungle, everyone are laughing. Ha, ha. We laugh so much until we belly hurting. Oh gosh! Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. Tiger. No, 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 no. Always hungry. And he thinking of chicory. Always hungry. And thinking of some kind of chick. Watch him. Always hungry. And thinking of chicory. Always hungry. And thinking of some kind of chick. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger.
Vous écoutez Autour de la question, pourquoi tant d'idées fausses sur les araignées, avec la biologiste Christine Rollard, arachnologue. Et nous venons d'écouter Hacheba qui a chanté Little Anansi. Donc Christine Rollard, vous connaissez Little Anansi, c'est une araignée aussi.
Ah oui, en fait, c'est un des personnages les plus populaires parmi les peuples forestiers en fait, du continent et des contes africains. Et donc, du coup, ce personnage en fait, a tous les défauts du monde et il est assez rusé. Il peut aussi donner des conseils. Et on raconte beaucoup d'histoires en fait, sur ce personnage aux enfants. Et il est plutôt ridiculisé. Et donc, du coup, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui les effraie dans ces cas-là. C'est vraiment un personnage qui est comique, dont il faut un peu se méfier, mais c'est quelque chose d'assez positif, finalement.
Ce n'est pas du tout une araignée effrayante.
Absolument pas, même s'il n'est pas très très joli, mais bon, il peut changer en araignée quand il a fait des bêtises. Et bon, c'est vraiment quelque chose qui est perçu de façon complètement différente.
Il y a quelqu'un d'autre qui aimait aussi beaucoup les araignées, notre poète Victor Hugo. J'aime l'araignée, lu par l'acteur Denis Podalydès.
J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait. Et que rien n'exauce et que tout châtie leur morne souhait. Parce qu'elles sont maudites, chétives, noirs êtres rampants. Parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens. Parce qu'elles sont prises dans leur œuvre, au sort, fatal nœud. Parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée un gueux. Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes, parce qu'on les fuit. Parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit. Passant, faites grâce à la plante obscure, au pauvre animal. Plaignez la laideur, plaignez la piqûre. Oh, plaignez le mal. Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie. Tout veut un baiser. Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas, loin du jour, la vilaine bête et la mauvaise herbe murmurent amour.
Christine Rollard, vous connaissez bien ce poème de Victor Hugo.
Que j'aime beaucoup et j'ai d'ailleurs une petite copie sur ma porte en fait au Muséum d'Histoire Naturelle donc du poème de Victor Hugo.
Donc nous sommes là pour revaloriser l'image des araignées et on parlait tout à l'heure de Little Anansi, donc populaire au Ghana notamment. Mm-hmm. Il y a aussi des contes au Cameroun.
Oui, et puis c'est pas seulement des contes, c'est en fait des actions divinatoires et divinatrices grâce à des araignées, hein, donc on les nomme, c'est des mygales, et on les nomme Ngam, hein, donc c'est pas facile à prononcer pour moi. Et elles font des terriers dans le sol, elles sont nocturnes, et du coup les Camerounais déposent autour de l'entrée du terrier des petits bâtonnets, et l'araignée quand elle va sortir va pouvoir les déplacer, hein, donc en fonction de justement de son errance autour du terrier, et selon l'orientation de ces bâtonnets, il y a tout un tas d'interprétations qui sont faites, et on est vraiment attentif à ces mouvements, et on va vraiment chercher les interprétations grâce en fait à ces araignées. Donc il y a des actions divinatoires grâce aux araignées.
Oui, et pour aimer les araignées, il faut aussi les connaître. Alors, il y a beaucoup d'idées fausses. Alors, la plus connue, c'est l'idée selon laquelle les araignées seraient des insectes. Évidemment, ce ne sont pas des insectes.
Hein. Pas vraiment. Il y a des caractéristiques qui sont très différentes. Par contre, ce sont comme les araignées des arthropodes, c'est-à-dire des animaux arthro-articulés, à pattes articulées,
oui, podes. Mais la différence principale, c'est que les insectes ont 6 pattes,
déjà,
les araignées 8 pattes.
Et les 8. Ensuite, 3 parties dans le corps chez les insectes, 2 parties chez les araignées. Les araignées n'ont pas d'antennes. Les insectes ont des antennes et les yeux des araignées sont plutôt simples, c'est juste des petites lentilles et ils peuvent en avoir jusqu'à 8. Et les insectes en ont souvent 2, hein, même s'ils ont aussi des ocelles. Mais
donc
deux
les araignées, alors elles voient très bien avec donc autant
dans leur monde, à elles, sachant que la majorité des araignées font de 5 mm à 1 cm de taille de corps, et donc elles ont une vision à courte distance qui ne fait pas la netteté, mais dans leur monde à elles, elles voient très bien.
Oui, alors j'ai appris dans votre livre qu'elles voyaient donc simplement à courte distance. Mais alors, comment l'araignée fait quand on veut s'approcher pour la prendre? Elle va tout de suite s'enfuir. Comment elle fait pour nous percevoir si
alors,
elle ne voit pas aussi loin?
Les changements de luminosité, elle perçoit les formes et surtout, elle perçoit grâce à ses soies sensorielles qui sont sur les pattes mécanoréceptrices
donc
et chimioréceptrices.
Donc, ils sont des soies, non pas des poils. Hein,
on préfère
pas de
le terme de soie parce que c'est des soies
donc
qui sont insérées sur l'exosquelette.
C'est faux de dire qu'une araignée est poilue. Une araignée n'est pas poilue.
Non, c'est soyeux. C'est beaucoup plus doux quand même. Hein, c'est plus sympathique aussi. Et du coup, elle ressent les vibrations. Et donc, si on se déplace à côté d'elle, on fait vraiment des vibrations très importantes et elle va fuir ces vibrations de toute façon. Donc, elles ne nous perçoivent pas dans notre globalité, mais elles perçoivent par les autres sens aussi, donc ce qui peut se déplacer autour d'elle.
Nous avons Einar Rakoto de Madagascar qui se pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une origine commune entre les araignées et les crustacés, vu qu'ils ont une certaine ressemblance morphologique?
Et oui, effectivement. Donc, comme je le disais précédemment, ce sont des arthropodes, donc tout ça. Et il y a à peu près 500 millions d'années, l'évolution a fait qu'il y a des branches qui se sont un petit peu diversifiées. Et d'un côté, on a effectivement des animaux qui ont des antennes et des mandibules. Et les crustacés comme les hexapodes et les insectes ou les mille pattes aussi en font partie. Et puis d'un autre côté, on a des animaux qu'on a appelés des chélicérates, donc qui n'ont pas d'antenne et qui n'ont pas de mandibule, qui ont des chélicères, des tiges qui portent des crochets avec des formes différentes, dont font partie bien évidemment là les arachnides. Donc on est sur des branches, une branche commune, mais après ça s'est diversifié et ça s'est éloigné.
Un autre auditeur, docteur Boifou Serge Armand de Côte d'Ivoire, qui se pose la question suivante. Que se passe-t-il lorsqu'une araignée rencontre une abeille ou inversement lorsqu'une abeille rencontre une araignée? On pourrait se dire, bon, si l'abeille est prise dans la toile, bon d'accord, elle va se faire manger. Mais supposons, si on comprend cette question de la façon suivante, elles se rencontrent toutes les deux, est-ce qu'il va y avoir un comportement agressif de la part de l'un de ces deux animaux envers l'autre?
Alors c'est possible dans les deux sens en fait, ça dépend effectivement de ce qu'il appelle abeille, mais effectivement il y a des hyménoptères, les abeilles font partie des hyménoptères qui sont abeilles, des guêpes disons plutôt très particulières qui vont attaquer en fait l'araignée, la paralyser et pondre un œuf en fait sur elle. Donc là, c'est l'abeille qui aura le dessus puisque effectivement, elle peut l'araignée d'ailleurs quand elle est en présence de des petites guêpes solitaires va carrément se arrêter. Donc c'est comme si elle ressentait les vibrations des ailes et qui ne sont pas des proies potentielles. Et après, si c'est d'autres donc hyménoptères autres que ces guêpes solitaires, l'araignée peut effectivement attaquer de toute façon l'abeille ou la guêpe et ça peut lui servir de proie. Donc ça dépend de quelle espèce on parle.
Donc on a parlé tout à l'heure de la
vision. Il y a d'interaction de toute façon.
On a parlé donc de la vision des araignées. Et les araignées, on pourrait croire qu'elles sont sourdes et muettes puisqu'on entend rarement leur son, mais écoutez ce son d'une araignée. Alors, c'est une petite colle, je ne sais pas si vous l'avez parmi tous les sons d'araignées possibles, imaginables.
Déjà, il n'y a pas eu beaucoup de sonogrammes de fait, mais il y a quelques chercheurs qui travaillent effectivement sur les sons. Et on a des araignées qui font des tapotements sur le sol et qui sont effectivement...
Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette araignée, alors?
Ah, ça, j'en sais strictement rien, mais c'est possible que c'était peut-être un mâle qui était en présence d'une femelle et qui voulait peut-être justement attirer la femelle.
Exactement, donc, c'est le son d'accouplement, enfin pré-accouplement, en tout cas d'une araignée loup, justement, pour attirer la femelle.
Bien, c'est bon, vraiment que j'ai...
Voilà, vous pouvez revenir en deuxième semaine.
Bon, ça va alors.
Oui. L'historien Michel Pastoureau, qui est spécialiste des animaux, sur lesquels il a écrit de nombreux livres, était reçu par Caroline Lachowski dans une émission précédente et il a une question à vous poser.
Moi, je suis tout à fait incompétent sur les araignées, même en tant qu'historien. Je connais quelques histoires de la mythologie grecque, mais il y a quand même un mystère de la toile que j'avoue n'avoir jamais compris. Donc, si elle pouvait m'éclairer, ce serait bienvenu.
Donc Michel Pastoureau, qui a pourtant écrit de nombreux livres, alors c'est pas vraiment une question, mais il se pose la question, oui, enfin disons, le mystère de la toile. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Michel Pastoureau sur ce mystère de la toile?
Alors mystère, je ne sais pas dans quel sens il veut dire ça, mais bon, effectivement, déjà la toile, toutes les araignées n'en font pas, hein, donc ça c'était aussi une des idées fausses. Et puis la toile, c'est souvent l'image de la toile bien géométrique, très régulière, etc. Et effectivement, les araignées en tout cas qui en font, c'est inscrit dans leurs gènes, hein. Donc elles ont toujours un même démarrage.
Oui, alors, il y a les toiles géométriques, voilà. Géométriques avec des lignes
bien
droites,
régulières, bien régulières, avec des rayons,
seules,
etc.
Seules certaines espèces font ce genre de toiles,
certaines
ce
familles.
Qu'on appelle les épères, et d'autres font
Exactement.
Des toiles
Après,
totalement...
des toiles irrégulières, mais oui. C'est des toiles aussi, ce sont des pièges, hein, de toute façon, pour capturer des proies, donc des toiles en nappe, des toiles en tube, des toiles en réseau, et mais d'autres ne vont pas en faire du tout, pour
capturer
des
proies.
Est-ce
qu'il y a un intérêt à faire une toile géométrique par rapport à une toile qui, elle, serait totalement chaotique?
On se rend compte qu'elles sont toutes aussi efficaces. De toute façon, l'évolution a fait qu'il y a eu une diversification des techniques de chasse des araignées, qui sont vraiment très, très diversifiées, en fonction, en fait, des proies qu'elles vont pouvoir capturer, même si elles sont assez généralistes et opportunistes par rapport à ce qui va tomber dans leur piège. Et puis, c'est vrai qu'une construction de toile géométrique, c'est assez spectaculaire, puisque c'est vraiment... Il y a même un modèle mathématique, un petit peu, là-dedans. Et c'est toujours construit de la même façon, mais en adaptant en fonction des supports en fait dans lequel elle va poser son piège, quoi, qu'elle a choisi.
Mais est-ce que l'araignée tous les matins va refaire sa toile, va vérifier s'il y a un accro ici ou là, elle l'inspecte, comment
ça
se passe?
Effectivement, pour les toiles, même pour les toiles en nappe, en fait, que si vraiment il y a des trous, elle va les raccommoder. Par contre, pour les araignées à toile géométrique, donc bien régulières, certaines vont pouvoir remanger la toile et réutiliser les protéines de base de la soie d'araignée pour refaire ensuite un piège quand il est vraiment trop troué, hein, par des proies qui sont tombées dedans ou des intempéries, etc. Et elles sont capables en fait de sentir, en tirant sur les fils, les tensions en fait des différents de l'édifice, quoi, hein, soyeux. Et donc elles peuvent refaire, raccommoder ou carrément remanger et refaire en fait des toiles toutes jolies qui vont être plus efficaces pour capturer leurs proies.
Donc toutes les araignées ne font pas des toiles, mais il n'y a que les araignées qui font des toiles.
Alors ça, c'est pour les araignées qui font des toiles géométriques.
Non, mais géométriques, non, mais voilà. Disons, seules les araignées, même si toutes les araignées ne font pas des toiles, il n'y a pas d'animaux qui feraient des toiles et qui ne seraient pas des araignées.
Si, parce que dans les arachnides, il y a aussi des acariens qui font des grands nappages de soie sur des buissons quelquefois. Et c'est vraiment des acariens, ce qu'on appelle les tétraniques, qui produisent en fait des fils de soie. Et il y a des insectes qui produisent des fils de soie aussi. Il y a des papillons, par exemple.
Une autre question d'une autre invitée autour de la question, Agatha Liévin-Bazin, qui est éthologue, donc chercheuse spécialiste du comportement animal et surtout celui des oiseaux.
Bien sûr, la vie sociale, c'est ce qui m'intéresse le plus en général, mais je sais qu'il y a des espèces sociales, notamment une espèce en Guyane, Anelosimus eximius, qui vit presque comme des insectes sociaux. Et je serais assez curieuse de savoir si elle pense que ces espèces sociales peuvent apprendre plus facilement des choses plus poussées que les espèces solitaires.
Donc des araignées sociales. Christine Rollard, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors je vais mettre sociales entre guillemets, je vais peut-être plus parler de vie en communauté, puisqu'en fait on n'a pas de société à proprement parler, il n'y a pas de hiérarchisation comme dans les sociétés de certains insectes. Mais c'est effectivement sur les 50 400 espèces, il y a à peu près une vingtaine d'espèces qui vivent en communauté, dont certaines effectivement citées, donc l'Anelosimus eximius qui vit donc en Amérique du Sud. Et c'est des dizaines et des centaines d'individus sur un même nappage de soie qui peut prendre des bords de piste très impressionnants. Et elles ont la capacité de sentir les proies qui tombent dedans tout ensemble, de s'arrêter tout ensemble, de remarcher tout ensemble sur l'édifice en soie et d'aller capturer des proies beaucoup plus grosses qu'elles et de manger chacune en fait dans son coin, une partie de la proie. Et il y a quelquefois des nurseries pour certaines espèces dans des coins de la toile, mais la tolérance des individus est visible pour celle-ci, alors que pour toutes les autres araignées, elles sont solitaires et elles vont se manger entre elles.
Donc il y a une tolérance,
oui.
Mais est-ce qu'on peut parler d'intelligence ou d'intelligence collective chez les araignées, comme on parle d'intelligence collective chez les fourmis, par exemple ?
Bon, on va mettre intelligence entre guillemets, encore une fois, puisque qu'est-ce que l'intelligence ? C'est celle que nous, on donne comme définition. Les araignées, effectivement, ont développé plein de stratégies. Il y a de l'adaptation. Dans la définition d'adaptation, il y a une certaine intelligence. Ou dans l'intelligence, il y a de l'adaptation. Faites attention, en fait, au terme, hein, vraiment.
Pas
d'anthropocentrisme, mais néanmoins, il y a une forme effectivement d'adaptation.
Ce qu'on peut appeler des capacités cognitives, c'est ça.
Voilà. Hein. Donc là, il y a une reconnaissance des individus les uns par rapport aux autres, ce qui n'est pas le cas en fait dans les animaux solitaires, hein, donc les autres espèces. Mais par contre, il y a quelquefois, à certaines périodes de vie de l'araignée, une tolérance vis-à-vis par exemple des jeunes. Les femelles, par rapport aux jeunes, à un certain moment, vont... Voilà, les protéger jusqu'à leur sortie.
Mais il n'y a jamais d'éducation des jeunes chez les araignées.
Non, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a rien de tout ça. Voilà.
Pourquoi tant d'idées fausses sur les araignées avec la biologiste Christine Rollard ? On se retrouve après une petite pause musicale.
Nous
Siedion de Wati Watia Zore Band. Nous parlons des araignées avec la biologiste Christine Rollard. Donc une réflexion d'un auditeur, Fela Olusegun. Les araignées sont une sentinelle dans nos maisons. Elles nous préservent des nuisibles comme les cafards, les moustiques, les mouches, etc. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? J'imagine que
oui. Peut-être pas sur le terme de nuisible, parce que les nuisibles, en fait, ça n'existe pas vraiment. Il y a un équilibre qui se fait.
Vous défendez même les cafards aussi.
Et je défends aussi les cafards, oui. Un peu toutes les petites bêtes. Et effectivement, on dit souvent qu'une maison avec des araignées est une maison saine, parce que l'araignée assainit notre habitation en tant qu'insecticide naturel. Donc laissons les faire.
Et c'est même très étonnant, j'ai appris dans votre livre que les araignées, qui sont des petites bêtes finalement, hein, relativement petites bêtes, sont situées tout en haut de la pyramide alimentaire, juste en dessous des plus gros prédateurs. C'est-à-dire, si on considère tout ce qu'elles mangent, les araignées donc, sont juste en dessous des lions.
Complètement. Oui, elles sont effectivement des prédateurs très efficaces. Alors, elles peuvent être mangées justement par d'autres prédateurs, ça c'est sûr, hein, des oiseaux, des mammifères, des grenouilles, etc. Mais elles-mêmes peuvent manger 10 à 20% de leur propre poids en proie chaque jour. C'est une moyenne, hein. Il y a des fois où elles mangent, il y a des fois où elles ne mangent pas. Et on a estimé, donc c'est des études qui ont été faites assez récemment, oui, qu'elles pouvaient manger jusqu'à de 400 à 800 millions de tonnes d'insectes par an. C'est-à-dire la population humaine quand même.
Oui, hein. Attendez, donc, parce que là déjà, hein, vous avez dit 10 à 20% de leur propre
poids en proie chaque
jour. Donc moi qui pèse environ 75 kilos, hein, j'arrondis, hein. C'est comme si je mangeais à peu près 15 kilos de viande par jour.
C'est ça, oui. Hein, donc c'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal.
Alors elles peuvent jeûner assez longtemps, mais quand elles mangent, elles mangent bien.
Oui. Alors donc elles dévorent 400 millions d'insectes par hectare quasiment.
Oui, c'est ça. En fait, c'est énorme, et par an, enfin, c'est pour toutes les araignées du monde entier, bien évidemment.
Donc ça remplace les insecticides chimiques.
Ça remplace très bien les insecticides chimiques. Donc utilisons les insecticides naturels. Ça fait longtemps qu'elles font. Et elles s'autorégulent. En plus, elles se mangent entre elles. Un des plus gros prédateurs des araignées, ce sont les araignées elles-mêmes. Elles font de l'autorégulation. On n'est pas envahi par les araignées. Donc elles n'ont rien de négatif, en fait, finalement.
Oui, donc elles sont utiles pour justement
l'équilibre naturel.
L'équilibre naturel. Voilà. Mais elles peuvent être aussi élevées pour leur soie, puisqu'on a parlé de la soie. La soie a beaucoup de qualités. Il y a la résistance de la soie. Oui. Vous pouvez nous parler de ça. Il y a eu une tentative d'élevage d'araignées à Madagascar.
Oui, puisque en fait, le premier qui avait même montré cette résistance et cette élasticité, c'était même avant l'école d'araignéiculture, de culture d'araignée à Madagascar en 1896. Mais il y avait François-Xavier de Bon-Saint-Hilaire en 1709 qui avait présenté à l'Académie de Montpellier des gants qui avaient été faits en soie d'araignée. Alors il avait utilisé les cocons au départ et ensuite il a utilisé vraiment l'extraction des fils à partir des tubes qu'il y a à l'arrière du corps des araignées, les filières. Et donc c'est ce qui a été effectivement fait par ce père Camboué à Madagascar, donc qui était un père jésuite qui a élevé des grandes néphines, des araignées tropicales qui font des grandes toiles géométriques de quelquefois plusieurs mètres de diamètre. Et en tirant les fils des araignées, donc elles produisaient ces fils, ils entouraient autour d'un rouet à l'époque. Et ensuite, ils ont fait effectivement des pièces de tissu, un baldaquin de lit qui s'est malheureusement abîmé en mer avant d'arriver à l'exposition universelle de 1900. Et ils ont arrêté les élevages et depuis, l'homme s'y intéresse, mais en essayant de reproduire en fait une soie synthétique qui aurait les mêmes.
Mais pourquoi ils ont arrêté cet élevage alors ?
Parce que c'est contraignant en fait, des élevages d'araignées, elles se mangent entre elles.
Ouais, elles se mangent entre elles.
Donc il faut avoir
difficile.
Un espace suffisant pour pouvoir les élever. Ouais. Et en même temps, elles mangent des proies vivantes qu'elles doivent sentir avec leur soie sensorielle et puis les voir aussi. Donc il faut un élevage de proies en parallèle. Et finalement, ce n'était pas assez rentable par rapport aux vers à soie qu'on utilise depuis très très longtemps et avec lesquels, effectivement, on fait aussi des vêtements en soie. Mais les applications pourraient être très intéressantes au niveau textile, au niveau chirurgical,
Donc il y a des entreprises quand même qui essaient de développer ça, mais d'une manière différente, avec de la soie synthétique
avec
qui
de la
imite
soie,
la soie d'araignée.
Qui serait produite par d'autres organismes. En ce moment, en fait, il y en a qui font des expériences sur les bactéries.
Donc on pourrait parler des araignées pendant des heures, mais juste deux ou trois petites choses qui m'ont étonné à la lecture de votre livre. Il y a une araignée qui se met en boule quand elle est menacée, donc on pourrait dire que les araignées ont inventé la roue.
Complètement, parce qu'en fait c'est une araignée qui vit dans le désert et quelquefois on l'appelle aussi l'araignée flic-flac. Donc elle se met en boule et elle dévale en fait des pentes quand elle est par exemple attaquée par un prédateur. Donc on les appelle aussi les dames blanches en fait. C'est des grandes espèces.
Et il y a aussi des araignées volantes, la soie peut servir à faire une toile, mais la soie peut aussi servir, on appelle ça le ballooning.
Le ballooning, c'est-à-dire une dispersion aérienne, et les araignées jouent les aéronautes et se dispersent en étirant des fils, enfin qui se dévident au bout de leur abdomen avec le moindre souffle d'air, et elles se laissent porter ensuite tel un aéronaute dans le plancton aérien. Elles peuvent beaucoup manger là aussi.
Oui, mais c'est ce qui produit ce qu'on appelle parfois les pluies d'araignées.
C'est ça, qui font quelquefois peur aux gens.
Qui font peur aux gens, mais en fait, c'est quoi? alors
bon, c'est périodique.
Il n'y a pas à avoir peur, non, vous allez
non,
dire.
Non, il n'y a pas besoin.
Ce sont des petites araignées.
C'est des petites araignées qui se dispersent toutes en même temps et ça va être périodique et ensuite les soies vont se, voilà, vont se détruire naturellement.
Alors, dans certains pays, on mange les araignées. Vous en pensez quoi, alors, vous, des araignées comestibles?
Des araignées comestibles, dans les pays où ils l'ont fait, comme en Asie ou en Afrique, on peut en manger aussi. En Asie, ils ont commencé à en manger quand ils avaient des problèmes de disette et de famine pour avoir un apport de protéines. Maintenant, ils en mangent que quand il y a des fêtes. Et c'est plutôt un peu touristique. Et ils ont commencé à détruire leur population justement pour achalander les marchés touristiques. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord, effectivement. Mais quand ça faisait partie du régime alimentaire des peuples qui pouvaient manger des araignées, et comme d'autres mangent des insectes, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est une nourriture qu'il faut, qui nous permettrait de remplacer ce qu'est celle qu'on a? Je pense que non. Et à la limite, il faudrait manger peut-être un peu moins de protéines animales.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces films d'horreur, arachnophobia, ce genre de films qui cultivent la peur des araignées? Est-ce que vous allez les voir parce que ça vous amuse ou vous êtes absolument opposé?
Je vais les voir parce que j'ai envie de connaître un petit peu plus, de voir comment les réalisateurs ont pu utiliser les araignées. Après, je peux en parler justement à certains qui ont des phobies, puisque ça entretient quand même un certain nombre de phobies. Puis ça dépend après du regard. Hein. Il y en a certains qui aiment bien se faire peur aussi. Hein. Mais dans certains films, ils ont bien regardé les araignées. Ils ont mis beaucoup de caractère dans un même personnage. Donc, c'est pas mal. Mais après, Arakatak, Le Seigneur des Anneaux, ou Harry Potter avec des grosses araignées géantes qui lancent d'autres araignées, etc. sur les autres, ça peut faire peur. Et là, effectivement, je trouve que c'est exagéré.
Et vous, alors, vous êtes depuis toujours fasciné par les araignées. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, toute petite, déjà, vous aimiez les araignées. Vous vous êtes dit, tiens, un jour, je serai spécialiste des araignées. Ou est-ce que c'est venu par hasard?
C'est venu par hasard. Le hasard a bien fait les choses, on va dire, parce que je suis passionnée maintenant. Mais toute petite, j'aimais bien la nature et observer les petites bêtes dans le jardin de mes parents. Mais ce n'était pas les araignées en particulier. C'était plutôt les interactions entre les différents organismes et puis les plantes, etc. Et par la suite de mes études en sciences et à l'université de sciences, on m'a proposé un sujet de thèse sur les insectes qui les mangent. Donc j'ai commencé par les insectes qui mangent des araignées et ensuite je me suis passionnée pour les araignées. J'ai eu un poste au muséum sur les araignées. Donc voilà, c'est très bien.
Et votre prochain travail, est-ce que ça va être une expédition, un laboratoire?
J'ai suffisamment d'araignées maintenant collectées qui attendent dans des bocaux à être identifiées. Donc, je ne vais pas refaire de mission forcément lointaine. Et puis, j'ai toujours des bouquins à écrire aussi pour essayer de mieux faire comprendre les araignées.
Donc, il faut rappeler, vous avez des milliers d'araignées au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et ce travail, alors, ça consiste à...
Alors, je suis responsable des collections, mais après, il y a des chercheurs du monde entier qui viennent aussi consulter ces collections et travailler dessus. Et après, moi, j'ai fait mes propres prélèvements dans différents pays et c'est ça aussi qui sont à étudier et à identifier. Et ça peut prendre du temps. De mettre un nom sur une nouvelle espèce, ça peut prendre quelques années.
Bon, mais Christine Rollard, pour ce voyage dans le monde des araignées, merci. Hein. Je rappelle le titre de votre dernier livre, 50 idées fausses sur les araignées aux éditions Coué. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
C'était autour de la question « Pourquoi tant d'idées fausses sur les araignées ?» avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Et lundi prochain, vous retrouverez Caroline Lachowski. Restez curieux, passionnée de science, aimez tous les animaux et les araignées y compris. Dans quelques instants, les infos sur RFI, la radio mondiale.